16h21 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Une nouvelle majeure est tombée dans les dernières minutes. La Cour suprême des États-Unis qui invalide les tarifs douaniers de Donald Trump. En fait, pour être plus exact, je dois dire invalide certains tarifs douaniers de Donald Trump. C'est les fameux tarifs réciproques que Trump a imposés à d'autres pays qui sont invalidés. On dit à Donald Trump du côté de la Cour suprême, tu peux pas invoquer la loi sur les pouvoirs économiques internationaux d'urgence pour mettre des tarifs à absolument n'importe qui juste parce que ça te dit de le faire. En gros, moi, c'est le message que j'en comprends. Ce qu'il faut dire, c'est que les tarifs qu'on dit sectoriels, fait que tu sais, l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, ça, c'est pas inclus là-dedans. Pour démêler tout ça, analyste politique international Georges Mercier qui est avec nous ce matin. Georges, salut.
Et Max.
J'expliquais un peu le gros du topo. Est-ce que j'ai pas pire bien fait ça?
Ben, je pense que la distinction que tu as faite entre les tarifs sectoriels qui nous affectent majoritairement au Canada et les tarifs plus généraux, elle est importante. Puis, il faut la garder en tête parce que c'est pas aujourd'hui, là, la Cour suprême n'a pas dit à Donald Trump les droits de douane que tu as imposés sur l'aluminium, sur l'acier canadien, ils ne fonctionnent plus. Donc de notre côté, c'est pas une victoire majeure. Mais c'est une défaite monumental pour le président américain. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, Donald Trump utilise des pouvoirs d'urgence. Et dans tous les pays, il y a ces lois spécifiques-là qui disent à un État ou à un gouvernement, écoutez, s'il y a une urgence, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Et là, pour appliquer ses droits de douane partout sur la planète, il invoquait une loi de 1977. La loi sur les pouvoirs économiques internationaux d'urgence. Et cette loi-là, le problème, c'est qu'elle ne mentionnait pas les droits de douane. Donc, Trump, et ils ont étiré le sens de la loi. Et ce que la Cour suprême vient de dire, c'est, écoutez, tu ne peux pas revendiquer un pouvoir qui ne t'est pas explicitement donné. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça enlève un levier que Donald Trump se servait beaucoup, c'était son imprévisibilité. Parce que grâce à cette loi-là, il pouvait tenir tout le monde en haleine, faire peur à tout le monde, dire essentiellement, écoutez, si vous ne faites pas ce que je vais vous appliquer des droits de douane et considérant la taille de l'économie américaine, vous ne voulez pas que ça vous arrive. Et là, on lui soutire ce pouvoir-là. Et ce qu'il va devoir faire, s'il veut recommencer à imposer les droits de douane, c'est aller voir le Congrès, la Chambre et le Sénat, pour que le Congrès, qui aux États-Unis possède explicitement le pouvoir de taxation, qui est un tarif, c'est une taxe, lui accorde ces pouvoirs-là. Mais là, Max, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un contexte où les droits de douane, le protectionnisme économique, ça n'a jamais été populaire auprès des républicains, qui ont toujours dû se piler un peu sur le cœur pour aller avec ça. Et dans un contexte économique qui est plus difficile aux États-Unis, on apprenait aujourd'hui que la croissance avait ralenti à la fin 2025, peut-être que les républicains ne voudront pas lui donner ces pouvoirs-là et que donc, pour les deux prochaines années, jusqu'à la fin de sa présidence, Donald Trump n'aura plus ce pouvoir extraordinaire-là.
Fait que ce qu'on comprend, c'est que c'est surtout, sans dire à l'ego de Donald Trump que ça va faire mal, parce que probablement oui, là, mais sur le pouvoir qu'il a de menacer les pays à tout vent de « je vais t'imposer des tarifs pour ci, pour ça ». Puis maintenant, je parlais des fameux tarifs sectoriels, pour ça, j'ai raison de dire que c'est pas impacté. Puis, est-ce que même Trump pourrait se revirer puis dire « Ah ouais, vous m'empêchez de mettre les tarifs en overall. Tiens, l'aluminium, ça va être le double de tarifs. » Parce qu'on le connaît, le personnage de Trump. Il pourrait décider de faire ça?
Il pourrait le faire, ce serait irrationnel. Mais ce qui se passe, c'est que les autres lois américaines qui octroient au président la capacité de mettre des droits de douane, elles sont plus stringent en bon français, elles sont plus demandantes que la loi qu'il invoquait jusqu'à maintenant. Notamment, parfois, il faut qu'il y ait des enquêtes d'une commission sur les échanges, enquêtes qui prouvent qu'il y a bel et bien des pratiques déloyales et que donc des droits de douane sont légitimes. Donc, c'est des procédures qui sont beaucoup plus complexes, qui prennent beaucoup plus de temps que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Donc, même pour le Canada, peut-être que ça pourrait éventuellement motiver des groupes qui pourraient monter des litiges et qui lui diraient ces droits-là sur l'acier aluminium, eux aussi, peut-être, sont pas des goûts.
Mark Carney, comment il accueille cette décision-là de la Cour suprême des États-Unis, qui, je le rappelle, pour ceux qui peut-être se joignent à nous à l'instant, là, la Cour suprême des États-Unis qui vient d'invalider les tarifs douaniers de Trump, là, les tarifs réciproques qu'il appliquait là, à des pays dans le monde en disant « Bon, ben toi, tel pourcentage de tarifs, toi, ça va être tel. » Mark Carney voit ça, même si ça ne nous touche pas directement au Canada comme on l'expliquait précédemment. C'est une victoire pour Mark Carney.
Ah, mais c'est une victoire pour n'importe quel chef d'État qui avait à négocier avec la Maison-Blanche. Mark Carney, il jubile en ce moment. Lui, il doit être très content parce que ça prouve un peu ce qui était sa politique. C'est-à-dire, on va pas réagir à toutes les attaques de Donald Trump, on va prendre notre temps, on va jouer le temps long, finalement, peut-être dans l'espoir que la Cour suprême fasse ce qu'elle vient tout juste de faire, parce que là, on se retrouve avec un partenaire de négociation qui, évidemment, a encore beaucoup de pouvoir sur nous, hein, ça change rien, ça, par rapport à l'économie américaine, mais un partenaire de négociation qui a pas accès à tous les outils auxquels il avait accès hier encore, et donc, dans notre négociation, on a une position un peu plus forte. Un point que je veux mentionner, Max, c'est qu'il y a des gens qui ont souffert de ça. L'Union européenne a accepté l'année dernière d'un accord commercial ultra inégalitaire entre les États-Unis et l'Union européenne en raison de cette peur des droits de douane-là. Et là, il y a beaucoup de monde au sein de la Commission européenne, chez les leaders européens, qui doivent se mordre les doigts aujourd'hui et se dire on aurait peut-être dû attendre.
Georges Mercier, analyste politique international. Bon, je pourrais faire croire au monde que là, on a réagi à chaud puis que là, on s'est dit « Hey, on se parle! » C'était déjà prévu qu'on se parle. Le timing est juste super bon pour nous autres. Fait que merci la vie pour ça. Mais à la base, on allait aussi se parler de Donald Trump parce qu'il a donné hier un ultimatum de 10 jours à l'Iran avant que, pour le citer, le traduire, de mauvaises choses se produisent. Qu'est-ce que Trump demande concrètement à l'Iran? Tu sais, il y a une couple de semaines, on s'en parlait déjà là, de quel point ça brassait en Iran, puis que Trump surveillait ça, il allait-tu avoir intervention militaire? Là, ça commence à dater un peu. Là, ce serait vraiment un ultimatum, sinon quoi, Trump débarque?
Mais là, c'est un ultimatum qui est crédible, parce que les États-Unis ont amassé beaucoup, beaucoup de forces militaires au Moyen-Orient. Il y a plus de navires et de soldats en ce moment qu'il y en avait dans les 20 dernières années. Ça s'approche à peu près de ce qu'on avait avant la guerre d'Irak en 2023. Donc, les menaces de Trump, elles sont crédibles parce qu'il a les forces armées en place pour frapper l'Iran s'il devait frapper l'Iran. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Essentiellement deux choses. Première affaire, que le régime iranien promette et tienne sa parole, ce qui est toujours difficile avec ce régime-là, de ne plus enrichir d'uranium pour avoir éventuellement une arme nucléaire. Parce que la politique américaine par rapport à ça, elle est claire depuis toujours. L'Iran, un régime théocratique, ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Deuxième élément, si c'est pour plaire à Israël, on veut des limites sévères sur le programme de missiles balistiques des Iraniens. Ces missiles-là qui permettent à l'Iran de frapper différents pays, différentes bases américaines et surtout Israël au Moyen-Orient. Le gros problème ici, c'est que le régime en Iran, qui est boqué en bon français, là, ce régime-là ne veut rien savoir et ne risque pas d'accéder aux demandes américaines. Et là, il y a un dilemme pour Donald Trump parce que sa crédibilité, il y a quelques semaines, a été engagée lorsqu'il y a eu des grandes manifestations en Iran. Et il avait dit aux manifestants, manifestez, manifestez, l'aide s'en vient. L'aide n'était pas arrivée à ce moment-là. Et donc là, Trump doit à peu près rétablir sa parole. La question, c'est est-ce que les Iraniens, à la dernière minute, vont décider de changer d'avis, de lui donner suffisamment de garanties pour qu'il puisse clamer victoire, ou au contraire, ils vont rester sur leur position. Et là, on pourrait effectivement avoir une guerre de plus longue haleine. Mais chose certaine, les États-Unis n'entreraient pas physiquement en Iran. Ce à quoi on risque d'assister, c'est des bombardements aériens sur plusieurs semaines.
Le fameux conseil de paix de Donald Trump s'est réuni hier pour une première fois. Là, on en est où avec ça? Qui a décidé finalement grossièrement d'en faire partie? Ça a donné quoi? C'est-tu quelque chose qui risque de perdurer dans le temps un peu ou c'est un peu un shit show puis ça va mourir de sa belle mort tranquillement pas vite?
En fait, si on va en faire un slogan, le fameux conseil de paix de Donald Trump, c'est un peu un genre de mieux alternatif, mais tout entièrement orienté autour de la personne de Donald Trump. C'est comme si Donald Trump avait voulu créer des nouvelles Nations Unies et se nommer lui-même chairman. Ouais, d'ailleurs, ce qui est très drôle avec ça, Max, c'est qu'il est le secrétaire général de cette organisation-là, pas en tant que président des États-Unis, en tant que Donald Trump. Donc, même s'il quitte le pouvoir, il va rester le chef du Board of Peace. Et ce qui est intéressant, c'est que les pays qui sont traditionnellement des alliés des États-Unis n'en font pas partie. Bon, quels pays on a là-dedans? On a le Maroc, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Mongolie, la France, l'Angleterre, le Canada. Pour l'instant, on refuse l'invitation. Donc, c'est vraiment un genre d'ordre mondial alternatif qu'on veut créer, tout orienté autour des intérêts de Donald Trump, donc une vision beaucoup plus mercantile, beaucoup plus unilatérale. Pour le dire comme ça, là, c'est un peu comme si Trump voulait donner un vernis à son unilatéralisme en relation internationale. Dire, regardez, oui, je passe à côté de l'ONU, mais j'ai le droit parce que j'ai créé un nouvel institut qui est meilleur. Bon, on verra ce que ça donne.
Autre sujet que j'avais sur ma liste d'épicerie pour toi, Georges Mercier, le Venezuela, qui a adopté hier une loi d'amnistie. On dit que ça permet la libération de certains détenus. Monsieur, madame, tout le monde voit ça passer, puis j'ai l'impression que c'est pas une nouvelle qui est super accrocheuse. Dans le concret, là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis est-ce que tu es intéressant?
Mais le diable est dans les détails. Depuis que les États-Unis ont saisi Nicolas Maduro au Venezuela, on a une nouvelle présidente, Mme Delcy Rodriguez, qui veut montrer à la Maison-Blanche qu'elle va entamer peut-être des réformes démocratiques plus sympathiques. Et cette loi sur l'amnistie-là qui permettrait peut-être, parce que la procédure est très complexe quand même, à certains prisonniers politiques, il y en aurait des centaines au Venezuela, de quitter les prisons. C'est une manière pour le Venezuela de donner un gage aux États-Unis. De dire, regardez, on engage certaines réformes. Le problème, c'est que quand on regarde le détail de la loi, mais ça couvre pas grand monde, parce que c'est pour 13 manifestations violentes dans les 20 dernières années. C'est pas pour tous ceux qui auraient été emprisonnés pour leurs opinions contre le régime ou pour d'autres formes de dissidence politique. Donc, c'est assez limité. Non seulement ça, c'est pas automatique. C'est que certaines personnes vont pouvoir se saisir d'un tribunal pour que le tribunal accepte de les sortir de prison. Mais dans un régime comme le Venezuela, où les tribunaux sont très politisés, où il y a encore beaucoup de corruption, c'est pas clair que ça va fonctionner. Donc, c'est peut-être plus un show de boucan comme qu'autre chose, mais c'est un signe quand même que le régime vénézuélien écoute les demandes américaines et accepte d'être contrôlé un peu à distance par les États-Unis.
Tant qu'à être dans ce qui est contrôlé un peu à distance d'une façon ou d'une autre par les États-Unis, la situation à Cuba, on en est où? T'sais, on sait qu'il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de Québécois qui devaient partir à Cuba dans les prochains jours là, pour la semaine de relâche. Ce sera pas possible. C'est juste de pire en pire. Il n'y a rien qui s'améliore à Cuba.
En fait, ce qui est tragique à Cuba, c'est que c'est une tragédie parce qu'on a juste la souffrance humaine qui augmente parce que les États-Unis étranglent économiquement Cuba en limitant son approvisionnement de pétrole, en limitant la capacité de l'île finalement à produire de l'électricité, à produire des biens de première nécessité puis à acheter de la nourriture sur les marchés mondiaux. Donc, on a la souffrance qui augmente dans le but, ça c'est clairement la stratégie américaine, dans le but qu'on arrive à un soulèvement populaire. Le problème à Cuba, c'est que il n'y a pas vraiment de société civile, il n'y a pas de mouvement d'opposition organisé parce que les membres de l'opposition ont été mis en prison par le régime. Il n'y a pas d'alternative claire au régime. Donc là, ce qu'on a vraiment, là, pour le dire de manière très crue, c'est beaucoup, beaucoup de souffrance avec très peu de perspectives à court terme de changement. Et on va voir si éventuellement quelqu'un pourrait émerger, peut-être un Cubain exilé aux États-Unis qui reviendrait, dirait je suis prêt à prendre le pouvoir, mais pour l'instant, c'est pas ce qui se profile.
On va boucler la boucle, Georges Mercier, en revenant un petit peu par la bande sur notre sujet d'ouverture avec cette nouvelle de dernière heure, voire dernière minute, la Cour suprême des États-Unis qui invalide certains tarifs douaniers de Donald Trump. En parallèle, cette semaine, le Canada tenait au Mexique une mission commerciale pour diversifier certains partenariats commerciaux. Comment on navigue dans tout ça en étant le Canada, c'est-à-dire qu'il y a le fameux accord Canada-États-Unis-Mexique. Le Mexique a certains deal avec les États-Unis. Le Canada a des deals avec les États-Unis aussi. On ne sait plus qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui ne tient plus. Puis avec Donald Trump, ça peut bouger chaque jour. Le marché Canada-Mexique, on le gère comment?
Ben, d'abord, ce n'est pas un marché très important. Hein. Le Devoir rapportait aujourd'hui que c'est à peu près 1,1% de nos exportations qui vont au Mexique. Donc, ce n'est pas l'élément le plus important. L'élément important, c'est qu'on entame une période de révision de notre accord de libre-échange. Et si dans notre négociation avec les États-Unis, on va être dans une meilleure posture si on arrive à faire front commun avec le Mexique. Donc, on a intérêt à renforcer notre lien avec cet autre partenaire-là pour pouvoir mieux négocier avec le géant américain. C'est probablement ça qu'on essayait de faire avec cette mission commerciale-là. Mais un élément, Maxime, qui est intéressant, puis je reviens à la décision de la Cour suprême, Donald Trump a laissé miroiter la possibilité de se retirer complètement de l'accord de libre-échange, d'en faire un avec le Mexique, un avec le Canada. C'est une grande menace. Mais c'est une grande menace qui ne tient pas compte de la réalité qui rattrape Donald Trump. C'est que plusieurs entreprises, plusieurs Américains, plusieurs politiciens profite de notre accord de libre-échange. Il ne pourrait pas en sortir juste comme ça. Et là, ce qu'on vient de voir avec la Cour suprême, c'est que Trump aime menacer. Il est peut-être plus faible, en fait. Il a peut-être moins de pouvoir qu'on ne le croit. Puis il est peut-être temps qu'on se rende compte, en Occident, dans les autres pays, qu'on lui accorde trop de pouvoir.
Georges Mercier, analyste politique, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Comme je disais plus tôt, le timing était excellent. Puis là, tu t'en vas du côté de la France la semaine prochaine, c'est ça?
Un autre pays qui va très bien politiquement.
Ben c'est ça, on jasera si tu veux en direct de la France, voir ça se passe comment là-bas.
Avec grand plaisir, Max. Bonne journée.
Salut, Georges. Bonne journée. Au retour de la pause, on s'entretient avec le chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, Stéphane Lachance. Plusieurs sujets au menu. Là. Je veux notamment l'entendre sur Joël Lightbound, le ministre fédéral qui était à Boulevard hier dans le show du midi avec Jeff. A été questionné, bien sûr, là, sur le fameux montage financier du tramway. On va jaser aussi des priorités prébudgétaires de Bruno Marchand, des coûts plus élevés pour les camps de jour à Québec pour l'été à venir, le déneigement. Il y a un paquet d'affaires. Puis pendant ce temps-là, Il est 10h35, ça veut dire que dans 5 minutes, la rondelle tombe du côté de l'Italie. Demi-finale en hockey chez les hommes, Canada, Finlande. Inquiétez-vous pas, on va suivre ça de près. Tout comme ce qui se passe présentement, je vous rappelle, nouvelle de dernière heure, la Cour suprême des États-Unis qui invalide certains tarifs de Donald Trump.